C'est à vous, Caroline Brouet.
Retour à l'époque où on n'en était pas encore, Ludovic, aux 35 heures, mais aux 40, et où les congés payés n'existaient pas, mais où le bien-être salarial et la réduction du temps de travail étaient bien un idéal de gauche. Retour donc sur la figure de Léon Blum, qu'incarne Léon Blum aujourd'hui lors d'un colloque mardi 3 mai, c'est-à-dire il y a deux jours, jour anniversaire de la victoire du Front Populaire en 1936. Un colloque consacré à la gauche au pouvoir. François Hollande a invoqué de grandes figures de l'histoire socialiste pour défendre son héritage. Comme il l'a dit, le Front Populaire ou l'alternance de 1981 sont des moments de notre histoire nationale et il est intéressant de s'interroger sur les leçons de cette histoire, la trace qu'elle a laissée et ce qu'on en fait aujourd'hui. Parmi ces figures invoquées par le président de la République, celle de Léon Blum, qui demeure une référence de gauche. Il n'est qu'à penser au secrétaire général de Force ouvrière qui a déclaré il y a quelques jours à propos de la loi travail « Je n'ose pas penser que François Hollande va trahir Léon Blum ». Mais une référence dont la filiation peut aussi être revendiquée à droite. Léon Blum, auquel deux historiens consacrent aujourd'hui un essai biographique, dialogue croisé donc, entre Pierre Birnbaum, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite de sociologie politique à l'Université Paris 1. Vous êtes l'auteur de Léon Blum, un portrait qui a paru aux éditions du Seuil et dont le grand historien Robert Paxton dit que c'est la plus personnelle des biographies de référence. En face de vous se trouve Alain Bergougnou, bonjour.
Bonjour.
Historien, très grand historien de l'époque socialiste, de l'histoire du socialisme. Vous êtes le directeur de la revue socialiste et vous venez de faire paraître Léon Blum, Le socialisme et la République, publié à la Fondation Jean Jaurès, dont vous êtes membre du conseil d'administration. Je citais François Hollande tout récemment, mais on pourrait remonter un petit peu plus loin dans le temps et citer Nicolas Sarkozy à Poitiers. J'ai cité Léon Blum, disait-il, parce que je me sens l'héritier de l'enfant qui, en 1936, grâce au congé payé, jette sur la mer son premier regard émerveillé et entend prononcer pour la première fois le mot « vacances ». Et puis plus récemment, si on revient à nos jours, il y a quelques mois à peine, le 19 février 2016, le compte Twitter du Front National de Sciences Po a diffusé une fausse affiche montrant un photomontage de Léon Blum sous-titré « Congé payé, réduction du temps de travail, dialogue social, Léon Blum voterait Front National ». Alain Bergougnou, vous dites bien dès le début de votre ouvrage que Léon Blum reste quand même un enjeu de mémoire, qu'on peut se revendiquer, n'importe comment d'ailleurs, hein, son héritage. Est-ce une raison ou la raison principale pour laquelle vous vous y êtes intéressé, en dehors de la nécessité, bien sûr, de la date anniversaire?
Oui, parce que Léon Blum, il y a un paradoxe dans la mémoire française. Il est à la fois maintenant une figure reconnue et qu'on n'hésite pas à instrumentaliser, voir la citation du Front National que vous faisiez à l'instant, et en même temps, ça reste un personnage clivant en réalité. Parce que controversé, et il ne faut pas aller très loin lorsqu'on parle, vous en avez parlé à l'instant, on peut prolonger la discussion, réduction du temps de travail, les 40 heures, ça reste un sujet de polémique, l'Espagne, l'intervention ou la non-intervention, et l'antisémitisme, Pierre Birnbaum en parlera mieux que moi, mais donc Léon Blum, c'est à la fois un personnage reconnu et un personnage controversé, et c'est ça qui est intéressant, parce que ce n'est pas du tout une figure froide, c'est une figure, bien sûr, la société, le monde ont profondément changé, mais un certain nombre de ses réflexions sont toujours intéressantes et permettent d'avoir une grille de lecture pour le présent. Parce que je dirais, à la différence de Jaurès, pour qui il éprouvait une admiration sans borne, Léon Blum était un esprit analytique. Donc, au lieu d'emporter les choses dans une synthèse plus ou moins cohérente, et il aimait diviser les difficultés. Et donc, c'est pour ça qu'il a été peut-être le théoricien ou le dirigeant socialiste, même par rapport à aujourd'hui, qui a le plus pensé la question du pouvoir et les problèmes qu'elle posait.
Premier point peut-être de discussion entre vous, Pierre Birnbaum, puisque à cette figure clivante dont parle Alain Bergougnou, vous répondez plutôt consensus. Vous écrivez dans votre conclusion que de nos jours, la figure de Léon Blum s'estompe néanmoins, peu à peu, et qu'un relatif consensus se fait jour quant à sa place éminente dans l'histoire de la France moderne.
Un consensus...
Relatif.
non seulement relative, je dirais, mais plutôt un consensus dans l'amnésie, tout de même. Je pense qu'il n'a pas la place qu'il mérite d'avoir. Il a une petite statue invisible.
Où ça?
Il y a place Léon Blum, dans le 12e arrondissement.
De Paris.
Il n'y a pratiquement pas de lycée qui porte son nom. Très peu d'avenues, très peu de rues, très peu d'institutions, enfin, de l'État. La symbolique, sa place dans la mémoire me semble tout de même minorée. Or, nous sommes là quand même en présence de l'événement, à mon sens, le plus considérable de transformation de la société française. Il n'y a aucune mesure, aucune commune mesure avec ce qui se passe en 45 ou au moment de Mitterrand. La société française est radicalement transformée en l'espace d'une année. Entre le 3 mai et le 4 juin, en une année, cet homme, Léon Blum, absolument inattendu, ce bourgeois, ce lettré, cet admirateur de Stendhal, cet amoureux des femmes, ce leader des cotillons, des bals, ce grand bourgeois qui écoute la musique, qui joue avec Cortot, qui chante avec Reynaldo Hahn, c'est lui en lequel se reconnaît le peuple de France, le prolétariat français, c'est lui qui incarne le changement social. Il y a là une figure absolument novatrice par l'ampleur du changement dont il va être l'auteur. C'est lui qui mène ce changement, avec évidemment ses alliés radicaux et communistes. Mais c'est lui qui met en place cette transformation dans un contexte infiniment plus dramatique que celui d'aujourd'hui. Hitler est aux frontières, les ligues menacent dans les rues, les milliers de personnes menacent, on crie partout à mort Blum et à mort les juifs, etc. Il y a là une tension incroyable de la société française. Nous sommes dans le cadre de la crise de 29, des millions de chômeurs, et néanmoins en une année, la France se transforme de manière tellement extraordinaire que ce n'est qu'aujourd'hui, finalement, que, comme l'a dit mon collègue sociologue il y a un instant, qu'on commence à grignoter certains des acquis du Front populaire.
Vous parlez de 1929, Pierre Birnbaum. Je vous propose d'écouter, une fois n'est pas coutume, la voix de Léon Blum, le 1er décembre 1929.
De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes, alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres.
Il est là, le socialisme de Léon Blum, Alain Vergognaud, vous êtes intéressé à cette figure dans son rapport au socialisme.
Il est profondément humaniste. Parce que le socialisme de Léon Blum, c'est le socialisme de Jaurès, pas de toute la gauche française, parce que Pierre Birnbaum parlait des alliés radicaux et communistes, mais il y avait beaucoup de problèmes dans cette coalition, et on peut pas dire que les rapports avec les communistes étaient fraternels. Mais c'est la grande tradition du socialisme humanisme, c'est-à-dire du socialisme qui s'est fondu avec la République, et qui est porté par les espérances du 19e siècle, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il y a, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, des progrès de l'humanité, et qu'il faut jamais désespérer. Et on voit dans cette déclaration émouvante ce qu'on retrouvera tout au long, et que c'était dans le jeune Blum, comme ça sera dans le Léon Blum de la fin de sa vie, le socialisme, c'est d'abord la libération de l'individu. C'est d'abord la question de l'émancipation des hommes et du souci des individus. C'est pour ça, comme l'évoquait Pierre Birnbaum, qu'il y a eu, oui, non pas une révolution au sens politique du terme, mais une révolution au sens social, culturel, dans cet été 36. Il a créé un irréversible, non pas un irréversible politique, parce que les conquêtes du Front populaire ont été effacées dès 1938 et par par Vichy, évidemment, avant d'être rétabli. Non pas un irréversible économique, la politique économique a éprouvé ses difficultés, mais vraiment un irréversible social et culturel qui fait que, effectivement, comme le disait Pierre Birnbaum, la France d'après 36 n'est pas celle d'avant 36.
C'est finalement la complémentarité de vos deux livres que vous exprimez là, Alain Bergugnou, parce que dans votre ouvrage à vous, on lit le rapport très profond de Blum à ce socialisme, c'est-à-dire dans cette idée de transformation de la société. Je vous demandais tout à l'heure quelle avait été la nécessité qui vous avait poussé l'un et l'autre à écrire cet ouvrage aujourd'hui, en dehors donc du 80e anniversaire de la victoire du Front Populaire. Je voudrais me tourner vers vous, Pierre Birnbaum, parce que dans votre livre à vous, la République est là, très présente, mais c'est plutôt un Blum aux prises avec l'époque, aux prises avec ces années 30. Vous mettez en avant, et d'emblée dans votre ouvrage, son identité juive revendiquée comme telle, sa judéité. Vous insistez, vous, même si vous montrez un certain nombre de facettes multiples, mais vous insistez sur la tension entre le juif et le républicanisme.
Vous avez raison, mais je ne voudrais surtout pas que l'on retienne que cela de ce livre. Oui. C'est une des dimensions importantes. Mais il y a dans ce petit travail un grand nombre d'archives qui sont neuves et qui portent sur des sujets radicalement différents et qui n'ont aucun lien avec cette dimension juive. J'en citerai deux, si vous me le permettez, qui me tiennent à cœur. Un, par exemple, la guerre d'Espagne, dont on a dit tout à l'heure que ça pesait encore sur la mémoire de Blum. J'apporte dans ce livre, et pour moi c'est absolument essentiel, c'était une libération que de trouver ces archives qui sont totalement neuves. Aux archives nationales, on trouve des lettres des plus hauts dirigeants de la République espagnole, comme Negrín, qui disent à Blum, qui écrivent à Blum à quel point le gouvernement espagnol lui témoigne de sa reconnaissance, de son remerciement pour l'aide qu'il leur a apportée. Et lorsque Blum meurt en 50, toutes les associations de réfugiés espagnols en France envoient des télégrammes clamant leur douleur et leur reconnaissance à l'égard du camarade Blum. Donc sur la guerre d'Espagne, qui n'a rien à voir avec les Juifs, c'est un point qui me tient vraiment à cœur.
D'autant qu'on lui a reproché sa relative passivité,
vous l'écrivez, lors de la guerre d'Espagne. Il y a un apport que je voudrais souligner. Il y en a un autre qui me tient aussi beaucoup à cœur, ce sont toutes les lettres d'ouvriers que je pense être le premier à avoir trouvé, qui sont également aux archives, et qui témoignent, là encore, du caractère totalement imprévisible de cette alliance entre Blum, le bourgeois, et le prolétariat français. On a là des centaines, des milliers de cartes postales écrites d'Yvonne Les-Bains, d'Argelès Gazos, du fin fond des campagnes françaises, et qui témoignent de l'admiration, du courage, du remerciement des ouvriers devant le camarade Blum. Imaginez, ces lettres sont envoyées à l'adresse privée de Blum, quai Bourbon. Incroyable, les ouvriers du fin fond du prolétariat qui envoient leurs remerciements au camarade Blum qui habite quai Bourbon. On a là une hiérarchie sociale tellement éclatée qu'un sociologue ou un marxiste ne peut pas comprendre une telle rencontre. Il y a là, au fond, quelque chose de tout à fait poignant dans son caractère. Et j'ajouterais, pour répondre néanmoins à votre question, qu'en effet, il est juif. Donc c'est encore plus compliqué. Et je dirais que cette question que vous me posez, j'aimerais y répondre de cette manière-là. C'est quelqu'un de totalement imprévisible dans ce contexte historique. Il est à la fois humaniste, kantien, moraliste, socialiste et juif. Et néanmoins, le prolétariat se reconnaît en lui. Et néanmoins, c'est lui qui va diriger ce moment absolument essentiel de transformation de la société française. Qui plus est, non seulement il est juif, mais il se reconnaît comme juif, il est attaqué comme juif, aussi bien par Xavier Vallat lors de la déclaration à laquelle il fait allusion.
Bah c'est l'ouverture quand même.
C'est l'ouverture du livre.
C'est pas rien d'ouvrir un livre par ça.
On est effectivement le 4 juin 36. Léon Blum vient d'être élu, donc nommé chef du gouvernement, président du conseil, comme on disait à l'époque. Xavier Vallat se lève, qui va diriger le commissariat aux études juives 4 ans après. Il faut bien comprendre que l'histoire est contractée. Pour nous, 4 ans, c'est beaucoup. Mais non, 4 ans, c'est rien du tout. Entre 36 et 40, il ne se passe que 4 années. Donc, lorsque Léon Blum prend le pouvoir, de l'autre côté, 4 ans après, c'est Valla qui est au pouvoir et qui va le poursuivre en tant que juif. C'est Valla qui poursuit les juifs de France. Donc Léon Blum vient d'être nommé, Xavier Valla se lève et dit « Monsieur le Président, la France, ce vieux pays gallo-romain, ne peut pas tolérer qu'un juif comme vous puisse, un talmudiste subtil qui n'a pas les pieds dans la terre de France, puisse le gouverner. » Alors, tohu-bohu dans l'Assemblée, mais néanmoins, c'est une parole qui a été dite et qui reste crucial pour comprendre dans quelle tension Léon Blum vient au pouvoir. Une campagne antisémite d'une violence extrême se lève immédiatement.
Il a été laissé pour mort en 1936 par les Camerounais.
L'attentat de 36 en témoignait déjà. Léon Blum, Maurras dit, il faut le tuer et dans le dos. C'est-à-dire que tous les jours, la presse qui est énorme à l'époque demande sa mise à mort, le dénonce. Il y a des chansons d'un antisémitisme farouche. Peu importe là-dessus, mais ce sujet-là. Mais on voit bien que cet homme doté d'un courage inimaginable, quelle que soit sa fragilité physique, sa petite voix que vous nous avez fait entendre il y a un instant. Cet homme témoigne d'un courage, affronte ce conflit social, culturel, économique et racial, xénophobe, avec un courage, une tranquillité d'âme qui me paraît absolument méritoire. Et c'est cela que je voudrais souligner. Il trouve même le temps, en 1936, étant président du Conseil, d'écrire à la main des lettres aux réfugiés espagnols ou portugais ou grecs qui lui demandent d'intervenir en sa faveur. Il trouve, et on y trouve ces textes aux archives, on trouve des lettres écrites à la main alors qu'il est président du Conseil. Il prend le temps de répondre, d'écrire au ministre de l'Intérieur « Je vous signale le cas de tel ou tel immigré. Est-ce qu'il est possible d'intervenir en sa faveur pour qu'il soit enfin, qu'il obtienne des papiers ?» Et dans la France d'aujourd'hui, qui affronte cette question des immigrés, il est absolument crucial de revenir à Léon Blum. Il y a des phrases de dénonciation de la politique de répression menée par la police française à l'égard des immigrés. Il serait bon que nos gouvernements d'aujourd'hui s'en emparent.
Oui, vous le montrez aussi, ça, Alain Bargoniou, les mises en garde qu'a formulé Blum pendant des années à l'égard de la droitisation d'ailleurs de certains socialistes comme Marcel Déat et des mises en garde voyant monter non seulement le climat antisémite et haineux de l'époque, mais même aussi peut-être le péténisme.
Oui, il avait une claire conscience des dangers. Mais ce qui est intéressant pour compléter, parce que pour ce personnage, comme disait Pierre Birnbaum, à facettes multiples, c'est qu'il a voulu concilier une grande fidélité à ses idéaux socialistes, qui n'ont pas varié de toute sa vie, et sa conception du socialisme. Et en même temps, à partir du moment où il est devenu président du Conseil, l'intérêt de la France. Parce que, effectivement, on identifie au moment, Léon Blum, au moment le plus fort, l'été 36. Mais il y a une vie avant, et il y a une vie après. Et on a oublié cet épisode tout à fait important, et qui correspond... permet de répondre à votre question, c'est en mars 38, 1938, le Front populaire est agonisant, il y a l'Anschluss, donc Hitler avance son ombre sur l'Europe, et c'est Léon Blum, lui le socialiste, si critiqué par la droite, si vilipendé par l'extrême droite, qui va proposer l'Union nationale. Où il va devant les groupes parlementaires de la droite française, au Palais Bourbon, pour dire face à cette situation de danger en Europe, de radicalisation, on dirait aujourd'hui, des extrêmes, eh bien, il faut être capable de réaliser l'unité nationale des Républicains. Et les communistes, à l'époque, qui sont dans une tactique qui est une stratégie de défense des démocraties face à Hitler, approuvent cette démarche. Et c'est la droite qui refuse. Il y a quelques grandes personnalités de droite, comme Paul Reynaud, qui acceptent, mais l'ensemble des parlementaires refusent. Et je crois que c'est Léon Blum, c'est ça. C'est-à-dire, c'est à la fois une fidélité à des idéaux, mais en même temps, la conscience de la fragilité du pays, de l'intérêt général. Et c'est ce qui fait que, bien sûr, comme tout homme politique, et je le dis dans cet essai, comme tout homme politique, il a commis des erreurs, c'était pas un grand économiste, donc bien sûr. Mais
lesquelles erreurs ?
De politique économique, par rapport à la dévaluation, par exemple, qui a trop tardé et qui a été un handicap pour l'économie française. Bon, bah, il n'était pas le seul à se tromper, hein, de ce point de vue-là. Mais cette capacité à unir, dans le fond, des idéaux politiques avec le sens de l'intérêt général, c'est ce qui fait que Léon Blum est un homme d'État, et un des hommes d'État français. Et d'ailleurs, le général de Gaulle ne s'y était pas trompé. Parce que le colonel de Gaulle, en 36-37, avait demandé audience à Léon Blum pour essayer de lui expliquer les nécessités de la transformation de la stratégie militaire. Et il y avait une vraie conversation entre les deux hommes. Ça ne s'était pas conclu parce que de Gaulle présentait ça en même temps comme l'armée de métier. Donc pour la gauche française, l'armée de métier, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable. Et Léon Blum soutiendra de Gaulle pendant... Parce que c'est une période très importante, la période 40-44, où il a joué un rôle moral et politique qui est là aujourd'hui oublié, ça c'est très clair, mais il soutiendra sans faille le général de Gaulle dans la gauche française, parce que c'est l'intérêt général du pays. Mais lorsque de Gaulle, à partir de 46-47, créera le RPF et proposera un chamboulement de la démocratie parlementaire à laquelle Léon Blum était très attaché, eh bien il s'opposera à de Gaulle. Donc Léon Blum, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'union entre une fidélité à des idées, mais en même temps un sens aigu de l'intérêt général du pays et la volonté de le maintenir, de maintenir les libertés et la démocratie. Donc je crois que on a tout intérêt lorsqu'on parle de Léon Blum, même si évidemment nous sommes aujourd'hui dans le 80e anniversaire, de ne pas se contenter du Front Populaire, de ne pas se contenter de l'année 36-37. Il faut voir avant, il faut voir après, et il a joué de ce point de vue un rôle majeur dans la vie politique française, au-delà même de l'été 36.
D'autant qu'on peut aussi y voir, avec un esprit un peu critique, disons, le premier exemple, vous parliez d'erreur, mais le premier exemple, cela a été présenté par certains de gauche, le premier exemple de trahison de la gauche. Un an après les congés payés, les 40 heures, il a fallu faire une pause. Donc, pour ne pas utiliser un terme trop fort de trahison, peut-être le premier exemple avec le Front Populaire de Léon Blum, de difficulté de composer quand on est à gauche avec le réel et quand on est au gouvernement, Alain Bergonneau.
Ça, d'ailleurs, le premier exemple, il est au début du siècle, il est en 1899-1900. La gauche française, enfin, les socialistes viennent de faire leur première unification et elle éclate tout de suite sur le problème du pouvoir, avec le cas d'Alexandre Mirand, premier ministre socialiste dans un gouvernement bourgeois. C'est-à-dire que là, on a, quels que soient les grands changements de société, c'est vrai, comme je disais, aujourd'hui, c'est pas comparable à la France de l'entre-deux-guerres, mais on a quand même, on est dans les mêmes cultures, le débat se pose dans les mêmes termes, parce que juste pour le souci de Léon Blum, c'était d'exercer le pouvoir. Il pensait que les conditions, comme sa fameuse distinction entre l'exercice et la conquête du pouvoir, les conditions de la conquête du pouvoir n'étaient pas réunies, donc il fallait exercer le pouvoir en régime capitaliste, et selon ses propres termes, il fallait savoir jusqu'où on pouvait extraire un progrès social et trouver un point d'équilibre. Mais ça, ça ne satisfait pas à gauche. Et donc, il s'est heurté, c'est tout à fait intéressant, à une correspondance des temps, comme dirait une autre émission de concordance. Cette éminente... concordance des temps, comme dirait Jean-Noël Jeannet. Et il s'est heurté à la gauche de la SFIO, avec Marceau Pivert. Et il y a eu une scission en 1938, parce que Marceau Pivert reprochait la trahison. Et c'est lui qui avait fait ce fameux article à l'été 36, au moment des grèves, en disant « tout est possible ». Et le paradoxe, c'est que c'est Jacques Duclos, éminent responsable communiste, qui lui répond dans l'Humanité « Non, tout n'est pas possible, camarade Pivert ». Et tout le débat est toujours là.
Le débat est toujours là. Une question de Ludovic Piétenu.
Vous l'avez un peu dit l'un et l'autre, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus. Vous avez dit, et ça faisait partie des critiques de l'époque, qu'il était un intellectuel. Est-ce qu'il était peut-être une difficulté à exercer le pouvoir? Est-ce que ce qui ne manque pas aujourd'hui chez nos hommes politiques, c'est peut-être de ne pas être, enfin, d'être des intellectuels plutôt?
Pierre Birnbaum.
Est-ce que ce n'est pas une qualité?
Alors,
peut-être pas pour conquérir le pouvoir, enfin je ne sais pas, soit pour la conquête, soit pour l'exercice du pouvoir, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ce qui ne manque pas chez eux?
J'ai envie de vous répondre de manière un peu allusive. Vous me poussez vers le contemporain. Revenons à Blum. C'est en effet un intellectuel, mais il est normalien. C'est-à-dire que ce personnel politique issu de l'école normale supérieure, qui était prédominant, enfin qui était très largement représenté dans les élites politiques de la Troisième République, disparaît de nos jours. François Hollande est énarque, il y a des énarques qui ont porté l'État. De nos jours, l'énarchie sont un peu disparaître et est laminée par la montée du marché. Au fond, Léon Blum est une figure qui, et je reviens sur ce qu'a dit Bergugnou, il faut remonter avant et après. Je remonterai encore davantage qu'Alain Bergugnou, c'est-à-dire que Léon Blum se dessine en 1920. On n'a pas encore du tout évoqué le congrès de Tours, mais c'est ça le moment essentiel.
Discours sur lequel vous revenez l'un et l'autre.
Alors, mais c'est
très,
un moment
très, très important.
Absolument essentiel. Et si on relit ce texte aujourd'hui, mais il est absolument magnifique. Il est d'une structure, d'une logique. Blum polémique avec Lénine. Blum polémique avec Trotsky. Blum remet en question un marxisme dominant, réductionnisme. Et Blum met en place justement cette nécessité de mêler socialisme et démocratie en respectant le suffrage universel. Donc il annonce la naissance à travers le bolchevisme et les conditions de Moscou du totalitarisme soviétique, de la domination, du parti discipliné qui remet en question les libertés. Et il s'y oppose avec un courage absolument extraordinaire. Il sait qu'il est minoritaire, il sait qu'il va être battu, mais il pose la question et finalement il va avoir raison puisque c'est cette interprétation du socialisme qui est celle, au fond, à laquelle nous restons attachés et qui est la seule possible pour transformer, pour conserver à la fois l'exceptionnalisme français républicain, la synthèse jaurésiste, le suffrage universel auquel tenait Jean Jaurès et que le marxisme réductionnisme a largement abandonné, et finalement le socialisme également.
Il faut relire les discours de Blum, notamment son discours du Congrès de Tours en 1920, celui à la Chambre des députés en 1936, son audience au procès de Riom en 1942, son discours au Congrès de la SFIO en 1946. On trouve ces discours dans votre ouvrage, Alain Bergugnou, mais malgré tout, il fallait remonter avant 1936 et aller jusqu'après. Vous avez quand même choisi un choix de 1936, on entend Jean Gabin et la belle équipe dans le film de Julien Duvivier.
Semble une prison, on a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher, chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert.
Cette chanson qui illustre l'embellie des quelques mois de l'été 36, Alain Bergugnou. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission trop courte. Aujourd'hui, je rappelle le titre de vos deux ouvrages, Léon Blum, Le socialisme et la République. Alain Bergugnou, c'est à la Fondation Jean Jaurès et Pierre Birnbaum. Léon Blum, un portrait aux multiples facettes, on l'a compris, c'est aux éditions du Seuil. C'est l'heure de retrouver la chronique du médiateur, plutôt le rendez-vous du médiateur, Bruno Donas, qui aujourd'hui reçoit notre directrice, Sandrine Trainer. Bonjour Bruno.
Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous et bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour Bruno.
Merci d'avoir accepté d'être à nouveau présente dans ce rendez-vous bimensuel du médiateur. Nous avons constaté que les auditeurs de France Culture appréciaient beaucoup le fait que vous veniez répondre directement à leurs questions. Et parmi les nombreux commentaires que je reçois, une question
pourvu
revient...
Pourvu que ça dure.
Une question donc qui revient fréquemment en ce moment, c'est la présence de la religion sur l'antenne. Alors nous en avions déjà parlé en décembre dernier, des auditeurs s'étonnent et m'écrivent que le dimanche matin, alors que les différentes religions sont présentes sur l'antenne de France Culture, l'islam n'y est pas. L'émission Culture d'Islam est en quelque sorte à l'écart l'après-midi. Alors, dimanche prochain, Sandrine, ça change.
Eh ben oui, l'islam n'y était pas et l'islam y sera désormais. Écoutez, nous avons profité d'un changement de producteur. Culture d'Islam, en effet, change de voix. Vous savez qu'Abdennour Bidar avait pris le relais d'Abdelwahab Medeb après la mort de ce dernier.
Décès, oui.
Et Abdennour Bidar a été promu, il a été nommé inspecteur général de l'éducation nationale et à ce titre-là, il devait nous quitter.
Donc c'est bien de le préciser, au moins il n'y aura pas d'interprétation.
émission.
Non, aucune, aucune. D'ailleurs, je pense qu'on le retrouvera, mais en tant qu'invité dans les émissions de France Culture. Et donc, j'ai demandé à Khaled Bencher de le remplacer. Khaled Bencher est un homme pour lequel j'ai énormément d'estime, qui a été, du reste, au fil des années, un compagnon de certaines émissions. Il a été à un moment intervenant dans La Grande Table. Caroline s'en souvient très certainement. Et Khaled Bencher est à la fois théologien et par ailleurs, il est physicien, il est aussi d'autres choses. Et donc, c'est lui qui nous fera vivre l'émission culturelle.
Alors, pourquoi d'ailleurs ce changement d'horaire?
Précisément pour répondre exactement aux questions. Voilà, absolument. En fait, hein. De sorte que l'ensemble des religions soit traité dans le même espace d'antenne, c'est-à-dire le dimanche matin, comme le réclamaient un certain nombre d'auditeurs.
Alors, vous l'évoquiez, parce que ça aussi, souvent, c'est parfois même contesté, cette présence sur France Culture des religions le dimanche matin, ça fait partie du cahier des charges.
Ça fait partie du cahier des missions et des charges donc de Radio France, mais c'est France Culture qui l'assume. Je comprends très bien que ce soit contesté, je comprends très bien que ce soit discuté. Il n'en reste pas moins que ça fait partie de la délégation de service public qui nous est demandée, et donc... quoi que nous en pensions, les uns et les autres, nous l'assumons.
Alors toujours à propos de religion, plusieurs auditeurs trouvent que dans les débats avec les invités, dans les chroniques, il est beaucoup, trop pour certains d'ailleurs, question de l'islam, de l'antisémitisme, des différentes religions. Laurent, par exemple, reproche que...
L'antisémitisme n'étant évidemment pas une religion.
Non, c'est sûr. Alors Laurent, par exemple, reproche que tout ce qui touche à l'islam se retrouve en permanence sur l'antenne, Coran, Musulmans de France, Syrie, attentats, terrorisme, Daesh... des dizaines d'heures d'émission rebattent tous ces sujets à longueur de semaine ad nauseam, nous dit-il.
Ad nauseam, je n'en sais rien. La question générée par l'islam et ses dérives sectaires pour les uns ou tout à fait autre chose, se réclamant de l'islam pour les autres, agite la société, les sociétés, la géopolitique. Je vous dirais qu'à titre personnel, je préférais que ce ne soit pas le cas. Il se trouve que l'on fait avec ce réel-là.
Avec
je comprends.
La qualité aussi, d'ailleurs.
Oui, je comprends que des auditeurs puissent dire est-ce que vous n'en faites pas trop? En tout cas, c'est comme ça qu'il nous semble que ça nous arrive et qu'il faut que nous nous en emparions. Maintenant, tout n'est pas à mettre dans le même sac. Je veux dire, quand on parle de la Syrie, on parle de la Syrie. Les questions de géopolitique sont des questions de géopolitique. Évidemment, ça touche au monde musulman, oui, certes. Mais enfin, ça, c'est une question de zone d'influence culturelle. Je crois qu'il faut pas considérer que tout ça, ce que vous avez cité, fait partie du même sujet. Ce sont une infinité de sujets et très prégnants dans le monde contemporain.
Alors il y a aussi Barbara qui nous écrit « Je suis navré par l'infiltration de l'angle théologique qui traverse beaucoup trop vos programmes, une émission de science qui parle de nos origines et évoque des scientifiques croyants, plusieurs émissions philosophiques qui glissent vers la surexposition de l'aspect théologique de leurs approches, Jacques Attali qui parle de ses racines évoque longuement son lien avec la religiosité, je me sens prise en otage » et elle pose cette question « Je comprends qu'il soit difficile d'évincer tout le pan religieux ». Mais dans quelle mesure ne suggérez-vous pas par vos choix un abord prosélyte?
Je dirais que c'est presque l'inverse. Bon, au-delà, je ne vais pas répondre sur la question de ce que Jacques Attali a raconté de lui-même au micro de Guillaume Erner. Il en est évidemment libre. Mais si on prend l'exemple des émissions de science, c'est un sujet extrêmement sérieux, la question de comment aujourd'hui la prégnance du religieux influe sur la remise en cause d'un certain nombre de vérités scientifiques acquises. Je crois que c'est un sujet qu'il faut traiter, qu'il faut répondre à ces questions-là, à ces doutes-là. Et d'ailleurs, figurez-vous que l'année prochaine, au Théâtre de l'Odéon, avec Étienne Klein, nous allons faire toute une série de rencontres en public sur le thème « Comment savons-nous ce que nous savons ?» Et il s'agit justement de répondre à ça, de répondre à toutes les remises en question de la science et de la médecine aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une mission de service public.
Alors, Barbara, il faut quand même le dire, comme d'autres auditeurs aux questions pourtant très vives, ajoute « France Culture est un média unique et précieux ». Il fallait le dire.
Merci, Barbara.
Pas mal de messages également à propos de l'antisémitisme. Alors, il y a quelqu'un qui est quand même visé en particulier, c'est Alain Finkielkraut, dans son émission du samedi, où on nous dit qu'il passe, il fait souvent référence à la Shoah, l'antisémitisme, à la situation des Juifs. Didier nous dit « J'ai l'impression que ce sont devenus des règles de l'émission. » Et Julien ajoute « À force d'en parler, on finit par entretenir cet antisémitisme. »
Pourtant, alors que ça a été évidemment un sujet qui a beaucoup travaillé le travail et la réflexion d'Alain Finkielkraut, je dirais qu'aujourd'hui, la question de qu'est-ce que c'est qu'être français, de l'identité française, la question de l'éducation, la question de la langue l'occupe bien davantage. Là aussi, je ne fais pas de statistiques, mais je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Par ailleurs, Alain Finkielkraut, comme tous les producteurs, un producteur libre de sa programmation.
Merci Sandrine Trainer, directrice de France
Merci
Culture, d'avoir répondu à toutes ces questions, pas toujours facile, hein, des auditeurs qui sont très très impliqués dans l'écoute, et ça on le sait, des programmes de France Culture.
C'était le rendez-vous du médiateur de Bruno Donas qu'on retrouve dans 15 jours. À la réalisation de la Grande Table, Philippe Baudouin, à la technique aujourd'hui, Thibaut Germèze.